Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, Tout pour la musique. Une série en 9 épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde par Pierre Devalet.
J'ai une adoration pour le chocolat et pour Gershwin.
Michel Berger, c'était un artiste au sens le plus complet.
Il a une grande sensibilité dans sa musique.
C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un don dans le domaine artistique.
Troisième épisode, l'écriture à quatre mains.
Et lui avait une tellement belle âme qu'elle peut échapper à personne.
Il avait un charme incroyable.
Le moment dans sa vie où il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique.
J'ai une réputation plutôt difficile parce que je suis assez exigeant.
Michel est un mélodiste fantastique.
Ses chansons sont intemporelles.
Michel est quelqu'un de très actif.
Michel avait beaucoup d'humour, évidemment, très fin, très très fin.
Il aimait bien dire des bêtises.
Vos noms, prénoms, âge et qualité ?
Alors, Michel Berger.
Oui.
Et qualité ? Chanteur, auteur, compositeur, ACI.
Prouvez-le.
Je descends de l'avion et tu prends l'auto. Je retourne à la maison et je trouve ton mot. Et même loin l'un de l'autre, on est deux.
La relation entre Michel Berger et Véronique Sanson ne sera pas seulement amoureuse. Le couple va véritablement révolutionner la musique française. Tout a commencé en 1966 chez Pathé Marconi, lorsque le directeur artistique Michel Berger auditionne Véronique Sanson. Elle fait alors partie d'un groupe, les Roche-Martin.
Je me souviens très bien du jour où il m'a montré le disque des Roche-Martin et qui m'a dit vraiment,
Patrick Haas, son cousin.
C'est formidable, je suis sûr que Véronique a beaucoup de talent. Je m'en souviens très très bien, c'était donc, il y a un petit bout de temps, mais il m'a montré ce 45 tours là, avec les photos du trio, hein, parce que c'était un trio, en me disant qu'il était très très ébloui par la voix et la personnalité de Véronique.
Il ne se passait pas trop autre chose pour Véronique, encore au point de vue professionnel et tout ça.
Grégoire Collard, son agent.
Mais Michel savait qu'un jour ça pourrait marcher, donc il y tenait beaucoup à ça. De toute façon, il n'aurait pas jamais pu aimer quelqu'un qui ne soit pas sa muse, son égérie, et voilà. Et puis en même temps, un peu sa chose, bien sûr. Donc voilà, il fallait qu'elle soit une artiste qu'il admire, et je crois que c'était la même chose pour Véronique. Il fallait qu'elle aime quelqu'un, puisque après elle a épousé plus tard un musicien aussi. Donc c'était sûrement la même chose. Puis un jour, il y a eu un week-end en Bretagne organisé par François Bernheim des Roche-Martin, parce que tout le monde était resté très ami, évidemment avec la sœur de Véronique Sanson, qui sortait avec François Bernheim. Et les voilà partis en week-end en Bretagne, dans une maison de famille, un peu délabrée, un peu fantomatique, où ils ont fait des farces. Michel s'est révélé aux yeux de tout le monde comme un farceur, alors que c'était, il se sentait un peu sérieux de par son adolescence et son éducation, et par son poste de directeur artistique chez Pathé Marconi. Et le voilà faisant des farces, faisant des lits en portefeuille, j'entends des choses par les fenêtres, et puis d'autres farces. Et puis c'est là que l'amour tout court a commencé entre Véronique et Michel.
Michel va tomber amoureux, et elle va tomber amoureuse réciproquement, de la plus jeune des sœurs Sanson.
Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
Véronique est la Benjamine du trio, qui joue du piano, et ils vont très très vite se trouver beaucoup d'affinités. Ils sont tous les deux de petite taille. Ils sont tous les deux de grandes familles bourgeoises. Hein. Le père de Véronique Sanson, René Sanson, est le député du 14e arrondissement de Paris, de ce qui à l'époque est le parti gaulliste. Donc c'est une grande famille bourgeoise du 16e arrondissement. Donc c'est le même milieu que les Hambourgeois. Et bah, ils vont très très vite se mettre à jouer du piano ensemble et à inventer ce nouveau style de la chanson française.
Véro, quand elle voit Michel, bon, il n'y a pas de doute. Elle parle et elle a la bouche grande ouverte comme ça, elle le boit des yeux, c'est absolument incroyable.
François Bernheim.
Mais tout de suite, évidemment, on voit qu'il se passe quelque chose. Véro est pianiste. Mais les pianistes, elle fait très peu d'études de classiques, elle est autodidacte. Et non seulement elle a une façon de déchiffrer les choses classiques qui moi, me fascine même encore. Évidemment que Michel est devant elle, et il est, semble-t-il, techniquement, en tous les cas, supérieur. Pas de beaucoup, mais supérieur. Donc, pour elle, tout est mêlé, là. La beauté, le milieu, parce qu'ils viennent du même milieu, Michel et Véro, le talent et la façon de jouer du piano. Et là, elle est fascinée. Ça, c'est vrai, vraiment.
On a eu le même amour du piano et puis la même éducation pianistique. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça. Puis en plus, on aimait les mêmes choses. On aimait les Beatles, on aimait Cat Stevens, on aimait plein de choses qui nous ont influencés. Parce qu'il faut se servir d'influence dans la musique. Sinon, on stagne complètement. Mais même moi, j'étais influencée par les Brésiliens, les Cubains, tout ça. Mais je trouve qu'on a beaucoup écouté de musique et qu'on aimait vraiment les mêmes choses. Il ne s'est jamais passé, par exemple, que Michel me dise « Écoute ça, je trouve ça formidable » et que je dise « Ah non, je trouve que c'est nul ». Et lycée de Versailles. Et donc on a toujours été d'accord et en parfaite osmose avec lui et moi en tout cas.
Michel Berger quitte Pathé Marconi. Il devient directeur artistique chez Warner sous la direction d'un pianiste de jazz, Bernard de Bosson.
Je rencontre Michel en 71.
Bernard de Bosson, son producteur et ami.
Date à laquelle les Américains de Warner et Daniel Filipacchi décident de monter une maison de disques en France et où on me demande d'en prendre la direction. Michel existait déjà, bien sûr, puisqu'il avait été directeur artistique chez Pathé Marconi, qui ne s'appelait pas encore EMI. Il avait fait d'ailleurs un énorme succès. C'est lui qui était le directeur artistique de Bourville. Et il avait enregistré une chanson qui a eu un succès énorme, qui était très sympa, bon. Et puis, il existait aussi comme chanteur. Et il s'était présenté chez Pathé Marconi à un moment où il faisait des concours et trucs comme ça pour trouver des nouveaux talents. Et puis, il passait un peu à la radio parce que l'équipe de Salut les copains était fou de ce qu'ils faisaient. Ils aimaient bien ça, etc. Daniel me dit, écoute, il y a un garçon que... On passe beaucoup à l'émission. Moi, je pense qu'il ne fera jamais de carrière de chanteur, mais bon, c'est sympa ce qu'il fait. Puis, moi, je cherchais des gens pour étoffer mon équipe et notamment pour monter une production française importante, quoi. Donc, j'avais déjà quelqu'un qui s'appelait Jean-Pierre Orfino, qui était directeur de production avec moi, bien sûr. Et puis, Daniel me dit, voilà, je vais te donner le téléphone de ce garçon-là. Il me dit, t'appelles, tu verras. Dis-moi, je l'ai rencontré une ou deux fois seulement, mais... Donc j'appelle Michel, Michel était un garçon de nature un petit peu sur la défensive tout le temps, comme ça. Qui me dit, oui, vous croyez, machin, bon, finalement, il vient me voir. On est en fin février 71. On venait d'emménager dans des nouveaux bureaux, enfin, dans nos premiers bureaux aux Champs-Élysées. Et on n'avait rien. J'avais des tréteaux avec des planches dessus. J'avais des téléphones par terre. Enfin, c'était un peu comme dans les films. C'était très sympa. Et puis, on s'est engueulé pendant une heure et demie. Ouais, maison américaine. Il y en a pour la musique américaine, et la culture française, et la chanson française. Et qu'est-ce que c'est ? Bon, alors au bout d'une heure et demie, j'ai dit, bon, maintenant on va se calmer un petit peu. Je pense que vous n'avez rien compris de ce qu'on veut faire. Nous, on veut produire français. On va céder le magnifique, le plus beau catalogue américain que nous ayons. Et avec le produit des ventes qu'on va faire et de l'argent qui restera, et si on fait une bonne gestion, on va investir dans la chanson française. Ce qu'on a fait, d'un bout à l'autre, moi les 17 ans que j'ai été là, on n'a jamais renvoyé un sou de dividendes aux États-Unis. Et on a tout réinvesti, c'est comme ça qu'on a pu accompagner des grands artistes, quoi. Ben, finalement, on s'est revus, et puis il a accepté de venir travailler, je l'ai engagé comme salarié. On avait monté la maison de disques, on n'avait pas de distribution. On avait le catalogue américain, magnifique, qui ne se libérait que le 1er juillet 71, et le seul disque qu'on avait à sortir en avril, on venait de signer les Rolling Stones, et on a sorti l'album Sticky Fingers, vous savez, avec la fermeture éclair, un disque magique. Et là, j'ai fabriqué ce disque avec, dans des conditions épouvantables, parce que la pochette était épouvantablement difficile à faire. J'avais été longtemps chez Barclay pendant 4 ans et demi, c'est là que j'avais rencontré les Ertegun et que Daniel était venu me chercher aussi. Et la première artiste que j'ai signée, c'était France Gall, le 4 ou le 5 mai 1971. Et puis on va voir si on peut faire des choses, etc. Et on n'avait toujours pas de distribution, puisqu'on a commencé la distribution le 1er juillet. On avait distribution, ça veut dire qu'on a engagé pendant tout ce temps-là des représentants, des directeurs commerciaux, qu'on a trouvé des locaux pour mettre nos stocks, etc. Et voilà, on avait nos bureaux aux Champs-Élysées pour tout ce qui est artistique et promotionnel. Et puis on avait, à côté de la gare de Lyon, rue de Charolais pour être très précis, on avait nos locaux de distribution, on avait les stocks et tout. Mais on a pu récupérer le catalogue numéro 1 qui allait générer un petit peu notre chiffre d'affaires et puis les bénéfices qu'on pouvait en tirer. On ne l'a eu qu'à partir du 1er juillet.
Et Bernard de Bosson lui a dit...
Grégoire Collard, son agent.
C'était une jeune maison de 10, une filiale d'une maison américaine, mais là, qui s'implantait en France, lui a dit, écoute, fais ce que tu veux, engage, trouve des gens formidables. Et c'est ce qu'a fait Michel. Il a encore une fois passé des castings, écouté des cassettes, rencontré des musiciens et des groupes. Et il a commencé à faire signer des gens. Mais il avait en tête sa Véronique Sanson.
Et puis finalement, Michel est allé travailler chez...
Véronique Sanson.
Dans une maison de disques qui s'appelait à l'époque Kiné Philippe Aki Music, qui est devenue WEA maintenant, à Warner. Et il m'a présenté un monsieur formidable qui s'appelle Bernard de Bosson, qui m'a fait faire une maquette avec 10 ou 12 chansons. Et puis il m'a dit, bon, vous n'allez pas faire un 45 tours, vous allez faire directement un album. Ce qui, à l'époque, ne se faisait pas du tout, puisque l'album était quand même la consécration d'un super 45 tours en plus.
Moi, quand je l'ai engagé comme salarié, hein, moi,
Bernard de Bosson.
J'ai dit, on va trouver des artistes, t'es ravi en studio avec, etc. Et puis t'as peut-être des... dit, oui, j'ai une ou deux personnes auxquelles je pense, et il y a une artiste que je te présenterai, peut-être on verra, etc. Puis alors ça devenait un petit peu l'Arlésienne, parce que depuis le mois de février, ils m'en parlaient. Bon. Et puis, au mois d'août, on avait commencé à travailler, et j'avais eu la visite particulièrement fascinante pour moi, du directeur financier américain avec deux autres collaborateurs à lui. Une après-midi, il était en train de me prendre la tête, il n'y a pas d'autre mot, avec un sujet fascinant qui était les impôts différés. J'ai passé ma vie à attendre qu'on me parle de ça. Et d'un seul coup, il n'y avait pas de portable à l'époque, un téléphone, et mon assistante me dit, Bernard, il y a Jean-Pierre Raffinon qui vous demande. Il me dit, écoute Bernard, laisse tomber tout ce que tu fais, parce que tu sais, depuis le temps que Michel nous parle d'une artiste, là on est dans un studio de répétition, il faut que tu viennes, parce que c'est assez grave ce qui se passe. Bon. Donc j'ai dit à ces braves gens, écoutez, je vais faire mon métier de patron de maison de disques. On se reverra ce soir ou demain, puisque vous êtes là pour deux jours. Et je suis arrivé dans ce studio, avenue de Wagram. C'était au mois d'août. C'était un studio de répétition. Vraiment, il y avait une petite table d'enregistrement avec un magnétophone 8 pistes. Et tout était dans le noir. Et la seule lumière, c'était la lumière des vues maîtres de la console d'enregistrement. Et le studio était tout petit, je l'ai vu après, bon, il était minuscule, il y avait un piano, et j'ai entendu une voix qui chantait Amoureuse, je me suis retrouvé en larmes immédiatement. J'ai eu la même émotion en entendant cette jeune femme qui chantait, ce que j'avais eu quand j'avais vu, 10 ans avant, Red Charles au Palais des Sports, dans une interprétation d'un thème de jazz, qui est un standard, qui n'est pas facile, mais qui est une splendeur, qui était comme un Come Shine. Et il était avec les Raylettes. Il avait une petite formation, les Raylettes, son cœur de jeune femme, et puis un formidable flûtiste qui s'appelle David Newman. Et j'ai un souvenir toujours ému de ce moment-là. Et j'ai eu cette même émotion. Et là, je ne l'ai pas vue. Hein. Je ne l'ai pas vue, je ne savais pas comment elle était. Tout était dans le noir. Et j'étais obligé de repartir quand même. J'ai écouté 4-5 trucs. Et puis, je les ai pris à part. Quand ils m'ont amené à la porte du studio, je leur ai dit, si on la signe pas, je vous tue, les mecs.
Une nuit, je m'endors avec lui. Mais je sais qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. J'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil. Quand je prends sa tête entre mes mains, sa vie. Je prie pour que le destin m'en sorte. Je prie pour que le diable m'emporte. Et l'angoisse me montre son visage.
Michel Berger, tout pour la musique.
C'est grâce à lui que j'ai fait mon premier album, et mon deuxième d'ailleurs.
Véronique Sanson.
Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, je crois, dans ma vie de le rencontrer, parce qu'on se connaissait depuis longtemps, et puis on faisait, et l'un et l'autre, un peu la même approche de la musique. Et lui, il avait quelque chose d'infiniment lumineux. il n'aurait jamais rien pu faire d'autre, je crois, que de la musique et de faire exact, d'aller jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de son ambition. Et moi, il m'a beaucoup poussée à écrire des chansons. Moi, je faisais beaucoup, beaucoup de chansons, tout le temps à l'époque. Lui aussi, et chaque fois qu'on se retrouvait, on avait une chanson à se chanter.
On a, si vous voulez, découvert un petit peu la chanson ensemble, et c'est le véritable départ. C'est le moment où j'ai découvert vraiment que la chanson était la chose à travers laquelle je pouvais m'exprimer de manière la plus efficace, parce que j'ai eu une formation qui était... En même temps, un petit peu dans l'amour de la musique classique, puisque j'avais une mère qui était pianiste, et puis en même temps un petit peu intellectuel, puisque j'avais fait des études de philosophie. Et cette formation était complètement contradictoire avec le fait de choisir la chanson comme terrain artistique. Et puis peu à peu, j'ai quand même découvert que c'était ça la manière de s'exprimer, pour moi en tout cas, dans le monde dans lequel on vit, puisque c'est une manière... finalement très contemporaine. Ce sont des choses très courtes, les chansons de 3 minutes, dans lesquelles on peut s'exprimer, je crois, de manière assez forte. Et je crois que c'est le terrain le plus intéressant. J'ai essayé, vous savez, j'avais commencé en écrivant une espèce de symphonie, un concerto pour piano et orchestre, qui s'appelait Puzzle, qui est la première chose que j'ai faite. Et finalement, j'ai cherché des moyens de m'exprimer un petit peu différents à travers la musique, mais je crois que la chanson, c'est quand même l'idéal. Et je m'en suis aperçu, finalement, dans les premières années où j'ai fait vraiment de la chanson, en travaillant avec Véronique.
Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment découvert un ton qui était un ton commun et en même temps des choses à dire différentes.
On a commencé à se jouer de la musique et on était sidérés, ça c'est un souvenir formidable que j'ai, on était sidérés, on était étonnés que nos musiques soient si proches. Et on avait le même esprit et c'était incroyable parce qu'on n'en trouve pas tous les jours des gens qui ont vraiment le même esprit musicalement. Une gémelléité, même quand on s'est rencontrés, on s'est aperçu qu'on faisait un peu la même musique, qu'on avait les mêmes démarches harmoniques, qu'on avait le même phrasé.
C'est vrai que j'ai passé un certain nombre de temps à travailler avec Véronique au moment où on était en train de, si vous voulez, de former notre manière de faire des chansons, aussi bien elle que moi. Et qu'il y a eu un phénomène d'osmose nettement au niveau de la création qui a fait qu'on était vraiment dans la même direction et qu'on faisait le même genre de choses, qu'on parlait d'abord du même genre de choses. Et qu'au début, c'est-à-dire sur mes premiers enregistrements et sur ces premiers enregistrements dont je m'étais occupé, on était vraiment sur une même longueur d'onde et très proche. Mais je crois que depuis, il y a quand même eu des influences. Si vous voulez, à partir de cette chose en commun qui est certainement la manière de balancer les mots... et une façon de chanter certainement qui nous est commune, on a eu quand même un itinéraire très différent. Elle était très influencée par la musique américaine. Moi, j'ai été très influencé par tout à fait d'autres choses. Et je crois que maintenant, on est arrivé à avoir... C'est vrai qu'il y a un tronc commun. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on est un petit peu... je vais être prétentieux là, mais je crois qu'on est un peu à la base quand même d'un mouvement, d'une manière de chanter en France... Mais on a finalement, je crois, une manière de s'exprimer maintenant qui est très différente. Elle a une manière beaucoup plus forte et agressive, et moi, une manière beaucoup plus centrée sur l'émotion. Et je crois que dans les derniers albums qu'on a faits, je crois que ça se ressent de plus en plus.
Tu me diras l'amour comme une journée d'été, comme un fruit qu'on savoure, et moi je te croirai. On me croit là-bas, écoute-moi, tourne-moi le dos pour
tourne-moi le sitôt. Tourne-moi le dos. Oublie-moi le sitôt. Oublie-moi le sitôt. Si tu attends qu'on vienne te chercher.
Je pense véritablement que sans Michel Berger et Véronique Sanson,
Yves Bigot,
la musique française, y compris la musique populaire française, eût été différente. Parce que c'est vraiment eux, dans ce style qu'ils ont créé à quatre mains, quasiment à l'époque où elle était amoureuse, comme elle le chante, de Michel, mais qu'ils ne dormaient pas ensemble, comme elle le rappelle dans la chanson Amoureuse, hein, c'est pour ça, mais on nous l'interdit. C'est ça, hein, ils passaient leur journée, leur soirée ensemble, mais chacun retournait dormir chez ses parents. C'est-à-dire ce qui paraît désuet aujourd'hui pour des gens qui avaient 18, 20 ans. Hein. Mais c'était comme ça, la France de la fin des années 60, du début des années 70. Mais voilà, cette musique-là qu'ils ont inventée à quatre mains, c'est eux qui introduisent le sens rythmique du rock, donc en 4-4, hein, assez puissant, carré, et plus sophistiqué de polyrythmie brésilienne. Notamment, c'est vraiment eux qui apportent ça, et puis qui apportent un phrasé très particulier qui a été moqué hein, à l'époque. Lui, on disait que voilà, il chantait pas très bien, et Véronique, on disait qu'elle chantait comme une chèvre à cause de son vibrato, que lui possède aussi différemment de celui de Véronique, mais ils ont cette manière extrêmement découpée, saccadée, rythmique de chanter le français, de le faire sonner de manière assez scientifique, hein, puisque Véronique, elle est allée décortiquer hein, les sonorités, les syllabes qu'il chante, enlever les R du français qui enterre justement la langue française et l'empêche d'être tonique, puisqu'en français, on n'a pas d'accent tonique comme l'ont les Britanniques ou comme l'ont les Italiens, hein, deux langues dans lesquelles on chante beaucoup, le rock pour l'un et l'opéra pour l'autre. Voilà, le français, c'est une langue atonale. D'ailleurs, c'est comme ça que les Américains nous parodient. Hein, quand ils veulent prendre un français qui parle leur langue, ils prennent quelqu'un qui parle. C'est l'inspecteur Clouseau. Hein. C'est, voilà, la moquerie de notre manière de parler, ou c'est Brigitte Bardot, hein, avec sa façon de parler, comme ça, assez lente et très linéaire. Eux, vraiment, ont apporté le sens rythmique, mais aussi la grande richesse harmonique qu'ils sont allés trouver. Alors pour Michel, aussi bien chez Gershwin que chez les Beatles ou que chez les groupes de ce qu'on, à l'époque, on appelait la pop musique anglaise, hein, les Pink Floyd, King Crimson, dont Michel était extrêmement fan, ou Donovan, ou d'autres gens comme ça qui les ont inspirés. Donovan, c'était plus une influence pour Véronique que pour Michel. Mais oui, ils ont vraiment changé les choses. Là, sortie de l'album Amoureuse de Véronique Sanson. On en a fêté il y a maintenant 18 mois les 40 ans. C'est vrai que c'est un moment de rupture fondamentale dans l'histoire de la musique en France, parce que c'est, d'un seul coup, c'est une modernité incroyable qui arrive dans la manière de faire sonner le français, de l'arranger, et aussi où elle arrive à faire au piano quelque chose d'assez rare. En tous les cas, alors que possède merveilleusement Elton John, hein, ou des musiciens internationaux, mais qui est de faire sonner tout l'arrangement. C'est-à-dire, c'est pas juste l'accompagnement, comme le faisait Barbara ou d'autres hein, chanteurs ou chanteuses au piano. C'est elle, on entend tout l'arrangement, parce que toutes les harmoniques sont là uniquement déjà dans le jeu de piano. Tout est là. Comme un exemple, comme quand Neil Young est tout seul sur scène avec sa guitare, ben, vous n'entendez pas quelqu'un qui s'accompagne à la guitare, c'est vous avez l'impression d'entendre un orchestre entier, et il peut chanter dans des grandes salles seul à la guitare, il manque rien au son, hein, on n'a pas l'impression que ça sonne petit. Ben voilà, c'est ça, c'est quelque chose de très important qu'ils ont apporté ensemble, et puis évidemment séparément, l'un et l'autre, mais qui est fondamentalement différent. Quelqu'un comme Françoise Hardy le dit très bien, il y a eu avant et après l'album Amoureuse, et donc avant et après Véronique Sanson et Michel Berger.
Dans la chanson française en tout cas, c'est une révolution. Alors avant, il y a eu quelqu'un quand même, et quelqu'un de non négligeable, à savoir Barbara.
Bernard de Bosson.
Et vous savez ce que disait Barbara de Véronique ? Elle disait « Véronique, c'est la grande ». Alors, Barbara, elle avait ce côté un peu romantique, elle avait trouvé un système harmonique. Une personne qui est une journaliste, par exemple, qui serait pianiste et qui s'intéresserait à la musique de Véronique Sanson et éventuellement à celle de Barbara, il lui échappera certainement pas que Barbara, il y a un système harmonique, un seul, pas 36, mais qui est magnifique et qui fonctionne et qui, dans ce système harmonique, il y a une espèce de d'émotion permanente, vibrante, une ferveur qui est assez bouleversante. Quand vous y mettez là-dessus la voix de Barbara et puis cette espèce de magie des mots qu'elle a ou qu'elle empruntait quand d'autres lui faisaient des textes, c'était quand même un univers formidable. Il n'y avait rien avant. Il y a eu elle.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite, si milare et sol do fa.
Et puis Véronique qui arrive, et elle, elle amène un truc incroyable, parce que d'abord, c'est une musicienne fantastique, un petit peu comme Brassens, si vous voulez, je pense que c'est d'abord une musicienne, mais elle chante sa vie, elle met des mots qui sonne. Michel comme Véronique avaient tous une référence qui pour eux, aux deux, était très importante. C'était Polnareff qui était le premier à mettre des mots. C'était pas toujours lui qui faisait les paroles d'ailleurs, mais ça commençait à sonner un petit peu. Et elle, elle avait été justement formée par Gershwin aussi, parce qu'ils avaient une passion commune pour les mêmes choses, et le jazz. Et moi, je pense simplement qu'elle amène une espèce d'énergie. Et elle amène, si vous voulez, dans la chanson française, c'est la continuité du travail initié, un, par Trenet, deux, par Polnareff, plus tous les autres, les Red Charles et tous les gens de la musique, hein, un peu plus tard les Elton John. Elle amène quelque chose d'incroyable, c'est cette espèce de rythmique. C'est une chanteuse à la fois incroyablement romantique, mais incroyablement rock'n'roll quand même. Cette dimension rock'n'roll, elle va passer en stéréo, si vous voulez, et en 3D, dès qu'elle va arriver aux États-Unis, parce qu'elle va y mettre l'électricité en plus. Quand vous écoutez l'album Vancouver, c'est un truc de maboule, quoi. Il y a une espèce d'énergie là-dedans, avec les cuivres de Steve Wonder. Voilà, bon, donc voilà ce qu'elle a apporté vers les chansons. Il se passe véritablement quelque chose de totalement nouveau dans la musique en France avec son arrivée. Et c'est la première fois qu'une femme fait ça.
M'a un petit peu agacé, c'est le fait que la chanson française était devenue quelque chose de très précis, alors que c'est pas vrai, c'est quelque chose de très, finalement, de très large, de très éclectique, et qu'il y a des chansons françaises, et que finalement, si quelqu'un choisit de chanter du rock'n'roll en français, c'est aussi de la chanson française. Et je crois qu'il y a une chanson traditionnelle française qui est née de Brassens et de grands personnages de la chanson, vraiment, qui existe et qui est de grande qualité. Et il y a aussi autre chose, il y a aussi même de la chanson francophone, des gens comme Charles Bois ou des gens qui sont très très loin, alors qui sont peut-être mélangés un peu avec un univers américain, mais qui ont trouvé une manière francophone de s'exprimer, ont aussi leur place, et je crois qu'il ne faut surtout pas s'enfermer. Je crois qu'il y a un caractère nostalgique, si vous voulez, dans le fait d'essayer de préserver une chose française par rapport à l'énorme industrie américaine, qui est tout à fait fondée, parce que c'est vrai, le rouleau compresseur américain, moi, je le ressens terriblement. Mais je crois qu'il ne faut pas que ce soit nostalgique, il faut que ce soit constructif. Et moi, je me souviens d'ailleurs avoir entendu Brassens parler des Américains en disant qu'il était très admirateur de Fred Astaire, et Mireille et tous les gens qui ont fait la chanson française sont des gens aussi qui ont été imprégnés des Américains. Mais je crois que c'est réciproque. Je crois que les Américains sont très influencés aussi par ce qui s'est passé en Europe. Mais je crois que maintenant, quand on a 20 ans ou même 30 ans et qu'on fait les chansons, on est influencé par ça, mais aussi par les Beatles et par des tas de choses qui ne viennent pas de France, mais aussi d'ailleurs d'Europe. Il y a des gens comme Battisti en Italie, des gens qui sont peut-être moins connus, mais qui font de la chanson relativement moderne, sont des gens qui auront leur place, c'est certain.
Michel Berger, il aurait voulu faire une carrière américaine.
Grégoire Collard.
Il aurait voulu être américain, parce qu'il aimait la musique américaine. Il avait toujours aimé la musique de George Gershwin, un Américain à Paris. Il a rencontré le frère, en tout cas. Et puis il a rencontré d'autres Américains, des producteurs, tout ça. Il aurait voulu faire carrière là-bas. Mais bon, de toute façon, il ne parlait pas... C'était vraiment un Français. Il ne parlait pas parfaitement avec un bon accent américain, pas du tout. Et puis, il n'était pas Américain. Donc, ce n'est pas évident pour un petit Français d'aller là-bas. Il a essayé toute sa vie de réussir aux États-Unis. Il a fait plein de tentatives et par moments, il a un peu réussi, mais pas comme il aurait voulu. Et donc, il était très marqué par la musique américaine, par la musique anglaise, par les Beatles. Et il trouvait que les textes, les sonorités des mots allaient parfaitement sur la musique. Et il savait très bien qu'en France, il y avait beaucoup de reprises, d'adaptations de chansons américaines qu'on faisait chanter à des Sheila ou d'autres en claquant des mots français. Mais ce n'était pas parfait. Et donc, on disait toujours, le français ne peut pas être sur des syncopes américaines. Et lui, il a dit, je réussirai. Je serai le premier, mais je ferai sonner la langue française sur de la musique américaine.
Michel, ce qu'il a porté dans la musique, dans la chanson, dans la variété, pas dans le sens péjoratif, le côté donc anglo-saxon, il a amené la rythmique, il a amené le phrasé, syncopé.
Serge Perratonnerre, son claviériste.
Nous, en France, on a un héritage de textes, de beaux textes, des poèmes, de la littérature. Donc, on ne touche pas aux accentuations, on respecte les belles phrases. Bon, bah, c'est magnifique, c'est Brassens, Ferré, Brecht, tout ce que vous voulez. Mais ça ne swing pas, quoi. Il y a pas... Les Américains, ils ont le swing. Ça vient du blues, ça vient des blacks, ça vient de toute une culture, toute une histoire. Et Michel fait partie de ceux qui aime la culture anglo-saxonne et comment faire sonner des mots rythmiquement, ben c'est en les cassant, c'est-à-dire en faisant des syncopes. Alors par exemple, ta da ta 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 ta. Bon, un exemple, c'est-à-dire que c'est très cassé. En anglais, ça marche très bien. Scan, you, see, and me. Bon, tout le monde en yaourt s'est enfermé. En français, dès qu'on met des mots français, alors là, c'est catastrophique, ça tombe pas. On est obligé d'appuyer sur certains pieds. Et ben Michel a réussi. Coupi du pianiste, ta da ta 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 da ta ta da ta.
Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. La coupie du pianiste.
Et voilà, il a trouvé des bons mots, des accents. Il a déplacé les accents toniques sur des phrases et ça tourne. On écoute toutes les chansons rythmiques de Michel, ben ça swing. Comme peuvent swinguer des classiques américains qui swingent, voilà. Alors donc, il n'y avait pas que lui, hein. Je pense à Michel Jonas aussi, qui avait fait un gros travail comme ça. Goldman, après, a repris ça beaucoup. Mais disons que Michel était dans les premiers à faire swinguer la langue française, quoi. Je ne veux pas dire qu'il détestait Brassens, mais c'est l'anti-Berger. Alors que Brassens, c'est un monument incontournable, certes, mais on ne va pas en rester à glorifier Brassens, sinon on ne crée rien. Il faut tuer Brassens pour créer autre chose. Donc Michel a tué tous les chanteurs réalistes des années 60. Quoi. C'est un mec du twist, Michel.
Déraciné par le hasard.
Michel Berger, tout pour la musique.
La révolution musicale française est en marche avec ses deux leaders, Michel Berger et Véronique Sanson, qui semblent écrire une musique à quatre mains.
C'est un style qu'ils ont inventé tous les deux.
Yves Bigot.
En se mettant un peu en compétition amoureuse, hein, d'ailleurs, parce qu'ils se montraient des chansons où s'ils ne se voyaient pas pendant deux jours, il y en a un, il avait écrit trois chansons, ah ben non, moi j'en ai écrit quatre, et puis je te les montre, moi j'ai fait ça.
Et c'est devenu un jeu entre eux, qui allait composer le plus vite, en 24 heures, en 48 heures, sur tel ou tel thème et tout ça.
Grégoire Collard.
Et Michel avait imaginé qui tous les deux faisaient partie de la SAM. Alors la SAM, c'était la Société d'Admiration Mutuelle. Donc Michel avait des idées comme ça. Bon, c'était pour rire, bien sûr. Ce qui a beaucoup lié Véronique Sanson et Michel Berger, c'est ce partage, ces goûts communs en musique. C'était un partage, une complicité totale. Et puis ce même élan vers quelque chose de nouveau, faire quelque chose, composer, avoir un style nouveau, aussi bien pour elle que pour lui.
J'ai commencé à écrire pour moi, bien sûr, en même temps. Et ça n'a pas marché très fort au début. Parce que, d'abord, quand j'ai produit les deux premiers disques de Véronique, il y a eu par contre un succès immédiat. Comme je suis venu après, on se demandait un petit peu si je copiais pas, tout ça, c'était une période absolument épouvantable.
Personne n'a influencé l'autre, si on s'est trouvé comme ça.
Véronique Sanson.
Et beaucoup aimé, professionnellement aussi, c'est parce qu'on s'est trouvé, c'est-à-dire qu'on faisait un peu la même forme de musique et qu'on chantait un petit peu pareil. Et donc on était en un terrain ami, et lui et moi. Et personne n'a jamais copié l'autre, je pense. Que lui, en tout cas, il ne m'a jamais au monde copié. Mais je crois qu'il m'a apporté énormément de choses, parce que lui, il était déjà, depuis qu'il avait, je pense, je ne sais plus, 15 ans, il avait déjà fait beaucoup de disques et produit beaucoup de disques. Donc il savait beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que moi, non seulement sur la réalisation, mais sur, par exemple, comment on faisait des arrangements. Et il m'a beaucoup apporté, il m'a fait connaître une personne extraordinaire qui s'appelle Michel Bernol, qui a été notre orchestrateur et arrangeur pendant des années et des années. Et donc, il m'a fait connaître énormément de choses. Moi, j'étais trop en retrait. C'est-à-dire, j'étais d'une timidité épouvantable. Et par exemple, mon premier album, quand il est sorti, je voulais pas faire d'interview parce que j'avais la trouille. Je voulais pas faire de scène. Je voulais faire des disques, mais dans l'ombre. Et donc, lui, il m'a complètement stimulée. Moi, je faisais mes chansons de mon côté. Et puis, je venais lui chanter et il trouvait ça bien ou il trouvait qu'il fallait revoir ça. Il était très difficile avec moi. C'est-à-dire qu'il ne laissait pas grand-chose passer. Il disait ça, tu vois, c'est plus faible que ton refrain est plus faible que ton couplet ou quelque chose, enfin, ce genre de choses. Et petit à petit, bon, ben, je me suis habituée à ça. Et donc, j'ai mis ma barre, ma propre barre, un petit peu plus haut pour lui plaire et pour aussi me plaire à moi.
C'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'ils n'ont jamais écrit ensemble une seule chanson.
Yves Bigot.
C'est assez fascinant le fait qu'ils aient inventé un style ensemble, mais ils ont toujours composé de leur côté. Il n'existe pas une seule chanson qui soit co-signée, Michel Berger, Véronique Sanson, alors qu'ils ont inventé ce style qui après englobe plein d'autres gens. Donc évidemment, toutes les chansons de France Gall qui a écrites et produites par la suite Michel, etc. Mais c'est un style, je veux dire, le style Berger, c'est le style de la musique française à coloration rock des années 70 et 80. Très important et qui, pour le coup, ne doit plus rien à ce qu'était la chanson française d'avant. C'est-à-dire qu'eux se sont totalement détachés de Brassens, Brel, Ferré, Barbara.
Les gens ont toujours dit, mais c'est incroyable. Il y a plein de gens qui vous disent, c'est quand même formidable les chansons que Michel Berger a écrites pour Véronique Sanson. Michel Berger n'a jamais écrit une seule chanson pour Véronique Sanson.
Bernard de Bosson, son producteur et ami.
Mais c'est vrai que, vous savez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir leurs écritures à tous les deux. C'est hallucinant. Ils ont la même écriture tous les deux. C'est très étonnant. Il faudrait mettre ça entre les mains d'un graphologue, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que elle, je pense que la musique qu'elle fait, qui n'appartient qu'à elle, et ses systèmes harmoniques et tout cela, Michel était littéralement, mais
dans une admiration fantastique. Il a d'ailleurs été l'artisan pour les deux premiers disques. Il a su mettre ça en valeur formidablement avec son orchestrateur, Michel Bernold. Michel, il ne savait pas écrire les partitions, etc. Mais il entendait des choses. Il dit, je voudrais des cordes de telle façon. Donc ça se passait très bien. Chez Véronique, il y a des systèmes harmoniques, une espèce de structure musicale qui est finalement un peu différente de celle de Michel, peut-être beaucoup plus subtile au niveau du piano et au niveau de purement pianistique, alors que chez Michel, lui, il prenait un tout petit bout de rien du tout et il en faisait une symphonie parce qu'il s'aidait des musiciens qu'il avait choisis, à qui il demandait de jouer d'une certaine façon. Il était son propre compositeur, arrangeur, en s'aidant des autres, bien sûr. Elle, en fait, c'est quelqu'un qui peut faire un concert seul au piano sans problème. Michel n'aurait pas pu faire ça, par contre. Il avait besoin de s'aider, mais sa musique est peut-être beaucoup plus universelle, finalement.
C'était un grand musicien. Il avait une façon de composer et de se mettre au piano qui était atypique. Une chanson, c'est un couplet, un refrain, un couplet, un refrain.
François Bernheim.
Lui, le couplet était biscornu. Le refrain arrivait comme un truc qui ne collait pas forcément avec une symétrie. La musique, c'est assez symétrique, c'est assez mathématique. Lui, il était en dehors de ça. Moi, j'étais totalement fasciné par ça et j'en étais même jaloux, mais vraiment jaloux. Et au fond de moi, je me disais, mais ce mec, quand même, qu'est-ce qu'il est ? Il bouscule tout et c'était formidable qu'il bouscule tout. Voilà. Il me semblait que j'étais à ce moment-là quelqu'un de très classique et très vieux, alors que j'étais totalement dans mon époque. Mais lui, il avait un cran d'avance. Il a son style de composition, c'était ses sautes de rythme, cette façon de terminer un couplet, encore une fois je le dis, qui me déroutait. Voilà, je m'étais très dérouté par ça. Voilà, il avait probablement conscience qu'il avait vraiment beaucoup de talent. Il avait vraiment beaucoup de talent.
Plus personne au monde ne croira plus même en mon ombre. Quand j'aurai fini d'étonner un regard de toi, et je peux tout recommencer. Quand tu me sauras trop bien, quand viendra la magie du lointain, tes yeux qui flottent dans le vent, je toucherai le fond. Et c'est pour naître encore une fois. Je trouverai autre chose. Je trouverai autre chose pour toi. Je serai quelqu'un d'autre. Et si tu veux la folie, je serai plus toi. Personne au monde ne croira plus en notre monde, ne croira plus en toi et moi. Tu riras une fois, puis tout recommencera.
Michel Berger, tout pour la musique, le feuilleton des radios francophones publiques, la semaine prochaine, samedi prochain, message personnel, ce sera le 4e épisode.